Et puis le moment où j'ai décidé d'attaquer, il est vraiment gravé dans ma mémoire. Et du coup, c'est vraiment ce moment-là où j'attaque et je me dis, là, c'est bon, Max, tu continues à courir jusqu'à l'arrivée et c'est bon, ta victoire, tu l'auras.
Salut Maximilien, merci de prendre le temps pour cette discussion. Je pense que la première question que je peux avoir pour toi, c'est raconte-moi cette journée. Alors tu m'as envoyé un message il n'y a pas longtemps en me disant que tu allais avoir un test antidopage, donc j'ai envie de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui.
La journée a commencé quand même bien avant ça, vu qu'il est 18 h passées. Donc ce matin, bon, j'ai eu déjà une grosse journée d'entraînement. J'avais 3 entraînements aujourd'hui. Un peu de course à pied avant, ouais, au saut du lit, et puis 2 heures d'endurance en ski de rando ce matin, et puis de nouveau 2 heures de ski de rando cet après-midi. Puis en revenant, je bois un thé avec un ami, et puis j'ai le téléphone qui sonne d'un numéro que je ne connais pas. Généralement, quand c'est un numéro que je ne connais pas, je réponds tout de suite parce que. Voilà, je veux savoir qui c'est. Et puis, quelqu'un qui parle en anglais, du coup, d'abord, je me dis que c'est peut-être une erreur, voilà, un faux numéro, tu vois. Et puis, non, contre antidopage, il était devant la maison. Mais en fait, comment ça se passe, c'est que je dois remplir mes données de localisation. Et normalement, ils viennent le soir, entre 8 h et 9 h, à l'adresse que j'ai indiquée. Mais ils ont le droit de venir en dehors de cette heure-là. Et si je suis là, ils me testent. Si je suis pas là, ils continuent leur chemin et ils ne me testent pas. Vu là, j'étais pas chez moi parce que ma mère a le Covid en ce moment. Du coup, je suis un sponsor à Vercorin. Mais j'étais quand même à Vercorin. Du coup, je leur ai dit, ben, venez me tester, faites-vous plaisir. Et du coup, ils sont venus une demi-heure avant qu'on ait notre rendez-vous. Et puis voilà, ça prend quand même un peu de temps vu qu'ils prennent le sang et l'urine. Et voilà, maintenant je me réjouis de manger, parce que j'ai pas eu le temps de manger depuis la fin de mon entraînement, et me faire un petit sauna hammam ici à l'hôtel, et bien dormir.
Génial, je te le souhaite et je me demande si toutes tes journées ressemblent à ça. Est-ce que tu as autant d'entraînement et puis ensuite des contraintes ou des choses que tu fais qui sont prévues et ensuite tu te reposes. Comment est-ce que tu structures un petit peu tout ça et est-ce que c'est tout le temps des journées aussi chargées?
Ça dépend beaucoup de la période de l'année. En novembre, décembre, c'est des semaines qui sont généralement très chargées parce qu'on fait vraiment la base d'entraînement pour tout l'hiver qui arrive. Donc bon, là, j'ai une semaine à 20 heures d'entraînement. Aujourd'hui, j'avais presque 5 heures d'entraînement. Demain, j'ai que 1 heure, mais voilà, c'était un peu ma journée de repos. Mais après, des contraintes, ben, tous les jours, je dois annoncer où je peux me faire tester. Je dois donner un créneau horaire d'une heure, mais voilà, sur cette année 2022, c'est mon 6e test. Deux se sont faits à la maison, deux sur des compétitions l'hiver, mais pas le jour de la compétition, et puis deux juste après des compétitions. Donc voilà, c'est quand même toujours un petit stress de se faire tester et tout ça, mais voilà, c'est comme pour toute chose, on prend rapidement l'habitude, on sait comment ça fonctionne, et après voilà, on sait que c'est important aussi de prouver qu'on est propre et qu'on est fair play dans notre pratique sportive. Voilà.
J'ai vu un de tes interviews avec RTBF Sport et t'expliquais justement que tu voyais pas cette passion et cette carrière comme un sacrifice justement. Tu voyais comme une passion et que tu te donnais à fond. Du coup, voilà, les choses un petit peu contraignantes, elles valent tout le plaisir que tu as à côté. Est-ce que tu pourrais me décrire justement tes deux passions en fait, que tu fais tout au long de l'année?
Bah, tu as bien fait de dire que je parle jamais de sacrifice quand je parle de mon sport. J'aime pas associer ce mot à tellement négatif, tellement fort, avec quelque chose qui compte énormément pour moi. Et donc, bah, voilà, j'ai deux passions, ou une seule passion, comme je l'ai dit récemment, c'est que ma passion, c'est la montagne. Et donc, que ce soit l'été ou l'hiver, l'été, je fais du trail, la course en montagne, et l'hiver, du ski de randonnée, ou la version ski-alpinisme qu'on donne à l'aspect compétition de ce sport. Et donc voilà, toute l'année, ben, je parcours les montagnes, que ce soit basket au pied l'été ou ski au pied, et l'hiver. Et pour moi, parcourir les montagnes tous les jours, il n'y a rien de plus beau quand j'ouvre le matin, j'ouvre les rideaux de ma chambre le matin, je vois ces montagnes qui se dressent en face de moi, et je me dis, allez, aujourd'hui, je vais là, demain, j'irai là-bas. Je planifie mes sorties comme ça, et puis Puis j'essaye de combiner les entraînements structurés que j'ai avec la découverte des magnifiques montagnes qu'on a à disposition ici en Suisse.
À fond, à fond. Et je pense qu'en Suisse, t'as une version illimitée de tous les chemins que tu peux parcourir et ça doit rendre l'entraînement très agréable. Donc le mot vraiment qu'on a, c'est donc montagnard quand on voit toute l'année, t'es en montagne et pourtant du coup tu concours pour l'équipe de Belgique. Est-ce que tu peux aussi nous
Ouais.
raconter un petit peu comment ça s'est passé de ce côté-là?
Donc, je suis belge d'origine. Hein. Mes deux parents sont belges. J'ai vécu les 10 premières années de ma vie à Bruxelles et dans le Brabant wallon, hein, au sud de Bruxelles. Et puis, quand j'avais 10 ans et ma sœur 9 ans, mes parents ont décidé faites vos bagages. On part habiter dans un petit chalet de vacances qu'on avait à Vercorin en Valais. Et donc, depuis 2008, je passe quand même beaucoup de temps dans les montagnes valaisannes. Et je cours pour la Belgique parce que voilà, quand j'ai fait mes premiers championnats du monde, ça remonte déjà à presque 10 ans, c'était en 2013 en France. À ce moment-là, j'avais que le passeport belge. Et donc voilà, si je voulais concourir dans ces championnats du monde, c'était la catégorie cadet à l'époque, ben, j'avais pas le choix de courir pour la Belgique. Et puis en décembre 2016, mes parents avaient fait les démarches et j'ai fait les démarches pour obtenir la nationalité suisse. Et du coup, ben, à partir de décembre 2016, la question s'est posée, est-ce que je cours pour la Belgique? Je continue à courir pour la Belgique, mes origines, ma famille, mon histoire? Ou est-ce que je cours pour la Suisse, ben, ma terre d'accueil, mes montagnes, et ma culture sportive? Parce que voilà, ce n'est pas des sports qu'on pratique en Belgique. Mais voilà, quand même, la balance a fait que je décide de continuer à courir pour la Belgique. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout un choix que je regrette. J'aime bien être ce petit Belge qui se débrouille bien dans les montagnes et qui arrive à concurrencer les grandes nations alpines ou grandes nations ouais, qui ont des montagnes à leur disposition. Parce qu'en Belgique, enfin, le point le plus haut, c'est un peu plus de 600 mètres. Je crois que c'est quelque chose comme ça, 695 mètres. Mais en Suisse, je m'y plais bien.
Super, donc t'es façonné par les montagnes. Et fasciné du coup. Tu me dis que c'est
Ouais,
l'environnement qui te plaît.
fasciné par les montagnes. Quand je suis arrivé, ben, j'ai pas. Certains pensent que j'ai déménagé en Suisse pour faire du ski de rando ou du trail. C'est pas du tout le cas. Ben, j'ai déménagé ici. Mes parents, ouais, ma famille a déménagé ici. Et puis c'est seulement en arrivant une fois ici que j'ai découvert ces sports et que petit à petit, ben, ces sports sont devenus ma passion et presque ma raison d'être. Mais ouais, non, c'est. Venir habiter en Suisse, ça a vraiment été un grand déclic pour moi, que ce soit au niveau scolaire, au niveau sportif aussi. Là, je me sens vraiment bien dans ce beau pays.
Et donc au niveau scolaire, raconte-moi un petit peu ton parcours académique et comment tu as réussi à le balancer avec ta passion.
Ouais, ça a toujours été toujours un grand défi hein, pour les sportifs de combiner que ce soit. L'apprentissage, que ce soit les études, que ce soit même un travail peut-être par la suite avec un sport de haut niveau. Au début, les études passaient quand même au premier plan. C'était quand même réussir ses années, bien réussir ses années, pas d'avoir d'examen au mois d'août. Et puis le sport, c'était les week-ends où quand les devoirs étaient finis. Et puis petit à petit, ben, surtout à partir du moment où je suis arrivé à l'université, ben, avec le sport se passait vraiment bien. J'obtenais des podiums dans les catégories junior ou U23. Et du coup, voilà, les études, tant que je réussissais, après je réussissais toujours très bien, mais je me consacrais quand même principalement au sport. J'allais peut-être une vingtaine de jours par an à l'université. Le reste, je faisais tout à distance. Et puis aussi, j'ai obtenu un contrat de sportif d'élite de l'Université de Lausanne pour mes études. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit. Et donc, je fais un master en management après avoir fait déjà un bachelor. Et donc là, je finis mon master.
Est-ce que tu as l'impression que ce master en management t'aide aussi dans ta vie de sportif? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux transférer d'un côté à l'autre?
C'est clair que, ben, on acquiert des compétences dans les études en management et certaines de ces compétences, ben, je peux déjà les appliquer dans ma carrière sportive, que ce soit contact avec les sponsors, que ce soit Ben juste gestion de ma personne, mon enthousiasme, etc. Il y a toutes des choses que j'ai pu apprendre à ce niveau-là. Et puis mon sport m'aide aussi beaucoup pour les études, que ce soit la confiance en soi, que ce soit ma gestion du stress, que ce soit juste rien que le fait que je mène mes projets à fond et que quand je me fixe un objectif, je mets tout en place pour l'atteindre. Et donc, j'aime bien voir, bien avoir cette balance entre le sport et les études.
Oui, et puis t'as un sport où il y a aussi beaucoup d'endurance, donc je pense que le fait aussi de s'asseoir à une table et puis de devoir travailler, de faire des bon, je suis en HEC aussi, donc faire des calculs, faire préparer des examens, des projets, c'est toutes des choses qui dans la tête ont un impact bénéfique. Est-ce que tu as des outils ou une préparation mentale que tu mets en place pour la compétition?
Pour la compétition, oui, bien sûr, j'ai depuis maintenant 2 ans, j'ai une préparatrice mentale qui me suit. On a commencé vraiment juste à discuter et puis on a évalué mes forces et mes faiblesses à ce niveau-là. Et puis là, depuis un peu moins d'un, ouais, depuis un peu plus d'un an maintenant, on travaille sur un outil qui s'appelle la PNL. C'est la programmation neuro-linguistique, sauf erreur. C'est en fait, on utilise des souvenirs ou des moments où on a ressenti des émotions particulières dans le passé, et puis on essaye d'avoir un raccourci mental par un geste ou par le fait simplement de se dire un mot, de se refaire ce moment passé dans sa tête pour se mettre dans un tel état d'esprit voulu. Par exemple, si je veux me sentir invincible, gros, surpuissant. J'ai un souvenir dans le passé où j'ai me suis senti invincible et imbattable. Et donc, ou alors si je veux simplement être joyeux et avoir un état d'esprit positif, ben, je pense à une journée en montagne avec des copains où j'ai passé un super moment. Et donc, pour chacune de ces émotions, j'ai un mot déclencheur ou j'ai un geste, que ce soit juste me taper sur la cuisse ou me taper dans les mains. Et rien qu'en faisant ce geste, ben, en une demi-seconde, il y a un film de 10 minutes qui se fait dans ma tête et qui me permet de me mettre dans tel ou tel état d'esprit.
C'est super intéressant. Donc vraiment, tu vois l'impact qu'a cette technique pour la compétition et même peut-être pour la vie de tous les jours. J'ai une question qui me hante depuis que tu as commencé à dire ça. Du coup, c'est quel événement que tu te remémores quand tu as envie de te sentir invincible? Est-ce que tu as une belle histoire à raconter pour
J'ai une
ça?
belle histoire. J'ai une belle histoire. En fait, les souvenirs qu'on utilise, il faut aussi les faire changer à travers le temps parce que ils perdent leur force. Quand tu t'es fait, je sais pas, la 10e fois que tu as vu Harry Potter, tu t'es dit, bon, c'est bon, j'en ai marre. Et donc, c'est pareil pour ces souvenirs-là. Ils perdent un peu de leur puissance, de leur force avec le temps et avec les répétitions. Donc, là, le souvenir que j'utilise pour ce moment de puissance, c'était ma première victoire en Coupe du Monde, en élite. C'était à Madonna di Campiglio en Italie en mars 2021. Et c'était la deuxième course où j'utilisais la PNL. J'utilisais cette technique-là. La première course, c'était la veille où j'avais déjà explosé ma meilleure performance j'avais fait une 4e place en sprint. Et j'étais déjà incroyablement satisfait de cette performance-là. Et le lendemain, j'ai fait une super course et à 100 mètres de dénivelé de l'arrivée, j'ai mis une grosse attaque sur le favori italien qui était chez lui, sa famille était là, tout le monde était là. Et puis le petit Belge, il s'est pas laissé faire et il a mis une grosse attaque et puis il a gagné la course. Et c'était juste un moment incroyable. Et puis le moment où j'ai décidé d'attaquer, il est vraiment gravé dans ma mémoire et du coup, c'est vraiment ce moment-là où j'attaque et je me dis, là c'est bon Max, tu continues à courir jusqu'à l'arrivée et c'est bon, ta victoire, tu l'auras.
Allez jusqu'au bout! Allez jusqu'au bout! Allez! Allez Max, jusqu'au bout! Allez, 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 allez! Allez Max! Allez putain! Allez, allez, allez! Oh putain! Allez! Allez Max! Dieu, c'est trop beau! Dieu, c'est beau!
C'est ce moment-là, c'est toujours ce souvenir-là que j'utilise quand je fais ressortir cette puissance à un moment choisi durant une course.
Oh, ouais, les frissons, là, bien joué, t'as rien lâché et puis t'as gagné du coup. Est-ce que un petit peu plus tard, sauf erreur, donc en mars 2021, cette course est finie, t'es arrivé premier. Et je crois qu'en juillet, le CIO annonce que le ski alpinisme sera accepté aux Jeux Olympiques en 2026. Est-ce que tu pourrais aussi me parler de tes émotions, de ce que t'as vécu à ce moment-là?
C'était une nouvelle, c'était officiellement décidé à ce moment-là. Après, il y avait déjà des rumeurs, il y avait déjà des discussions, il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient. Sauf qu'on était un peu surpris de la date de la décision, parce que normalement, cette décision est prise lors des Jeux Olympiques qui avaient lieu à Tokyo quelques mois après. Mais donc, en fait, cette décision, c'est clair, elle a apporté beaucoup d'émotions positives. Mais je dirais que ça a pu apporter beaucoup de changements sur ma pratique, dans ma pratique sportive, parce que déjà avec ma victoire en Coupe du Monde et cette décision du CIO, je me suis dit, ben Max, tu as vraiment ta place dans ce sport, vas-y, mets toutes les chances de ton côté et vis ce rêve à fond. Parce que c'est un peu ma devise, c'est trouve ta passion et vis-la à fond, c'est par ces mots que je vis. Et donc, depuis un peu juillet 2021, j'essaie de mettre un maximum de choses en place pour être sportif professionnel et vivre de mon sport et de ma passion. Et donc, voilà, petit à petit, j'ai réussi à avoir aussi des soutiens de la Belgique, parce que quand un sport devient olympique, ben, généralement, il y a beaucoup de soutiens institutionnels qui se manifestent et qui proposent aux athlètes qui ont des chances de médailles ou des chances de top 8 au JO d'avoir certains avantages. Et donc, là, petit à petit, tout s'est mis en place et maintenant j'ai la chance de vivre de ma passion.
Génial. Est-ce que tu as les yeux rivés sur Milan 2026 ou est-ce que tu prends aussi chaque compétition une après l'autre et comment ça se passe à ce niveau-là, la préparation?
Je dirais que je prends chaque course une après l'autre, mais qu'il y a toujours un regard à long terme dans mes courses. Exemple, là, je travaille avec différents experts en Belgique. Ça s'appelle le Centre d'aide à la performance sportive. C'est tous des experts, les meilleurs experts en Belgique de chaque domaine, que ce soit la nutrition, la préparation mentale, que ce soit tout ce qui est biomécanique, que ce soit tout ce qui est musculaire, etc., qui se mettent ensemble pour aider des sportifs de haut niveau à atteindre les meilleures performances possibles. Et donc, je travaille avec ces experts-là pour optimiser mes performances en vue des JO de 2026. Et donc, je ne suis pas assuré d'y être parce que il y aura des critères de sélection qui seront annoncés en septembre 2023. Mais d'ici là, entre maintenant et 2026, j'ai quelques années un peu pour tester pas mal de choses. Et donc, quand je suis au départ d'une course, je ne pense pas au JO 2026. Je pense à cette course-là, je pense à mon objectif du jour. Mais j'ai quand même une vision après ma course, à long terme, disant ça a bien été, ça, il faudrait que je change. Ça, il y a moyen d'optimiser. Et donc, après chaque course, ou même avant chaque course, il y a des protocoles que j'essaye de suivre et de mettre en place en vue des courses futures ou encore plus loin des JO.
Ok, donc ouais, petit à petit, tu as des leçons, tu as des choses que tu peux apprendre. Et, et je vois aussi du coup, que tu es bien entouré avec ces équipes médicales pour la nutrition, etc. Est-ce que tu dirais aussi que les athlètes qui t'entourent, on va dire que... J'imagine peut-être que tu t'entraînes avec d'autres athlètes, que ce soit pour le même sport ou d'autres. Est-ce que ça aussi, ça a un grand impact sur ta motivation et par exemple, ta discipline lors des entraînements?
Je m'entraîne quand même très souvent seul. Je commence en solitaire dans ma pratique sportive. Ça ne me dérange pas du tout d'aller m'entraîner 5-6 heures seul en montagne. Après, j'adore partager ma passion, que ce soit avec des amis durant l'entraînement, que ce soit par les réseaux sociaux, etc. J'adore faire des petites stories, j'ai ma petite GoPro qui m'accompagne partout. Mais c'est clair que mes concurrents, souvent je dis qu'ils sont amis avant d'être concurrents, c'est des sources d'inspiration pour moi, c'est des personnes vers qui j'hésite pas à me tourner quand j'ai des questions. Mon entraîneur Yannick Ecker est un ancien athlète de l'équipe suisse avec qui je m'entendais super bien et avec qui je travaille maintenant depuis 2 ans. Et puis c'était aussi lors de ma victoire en Coupe du Monde en mars 2021. C'était assez émouvant de voir tous les athlètes de toutes les nations venir me prendre dans leurs bras et me féliciter et de voir qu'ils avaient presque la larme à l'œil de voir que j'avais gagné cette course. Même des coureurs italiens, ils étaient trop contents pour moi parce que voilà, je me bats depuis. Souvent, je me bats seul parce que là, j'ai pas de coach, rien pour moi. Je me débrouille un peu comme je peux. Parce que jusqu'à ce moment-là, je me débrouillais comme je pouvais. Et de voir tous ces athlètes se tourner vers moi, me féliciter, c'est un grand moment. Et donc, voilà, j'ai souvent que tous ces concurrents sont des amis avant d'être des rivaux.
Génial. Et je vois que du coup, le côté solitaire, par exemple, pourrait être un risque s'il y a une partie plus négative, par exemple dans la saison, ou une performance où tu aurais espéré faire un petit peu mieux. Comment est-ce que tu t'affrontes, peut-être pas la défaite, mais oui, tu as des petites défaites ou quelque chose où tu avais envie d'être meilleur, ou tu voulais te sentir plus à l'aise pendant ta compétition. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça?
C'est clair que quand une performance n'est pas à la hauteur de mes attentes après lors d'une course, la première chose, c'est t'as été déçu. Même quand tu es vraiment déçu, moi, ça m'est arrivé de pleurer après une course quand je voulais obtenir mieux que ça et que ça s'est bien passé, que j'avais mis beaucoup de choses en place pour cette course-là, que j'avais préparé à fond. Et puis ensuite, la deuxième réflexe, c'est d'analyser. Tu dis, mais j'ai mis tout en place, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça aille pas. Et puis ensuite, généralement, je mets ça par écrit. Comme ça, je garde une trace de. J'essaie d'écrire ça assez rapidement, soit dans la journée, soit dans les 48 heures après la course. Déjà, j'essaie de mettre un mot sur mes émotions, sur ce que j'ai ressenti, pour garder une trace, parce que souvent, on oublie un peu à quel point ces émotions étaient intenses, à quel point on était mal après une défaite. Et donc, j'essaie de mettre tout ça par écrit. Et puis, aussi vite que possible, j'essaie d'avoir un rendez-vous avec ma préparatrice mentale pour débriefer. Et avec mon entraîneur aussi pour discuter de ce qui n'a pas été, ce qui a bien été. Généralement, les deux grosses déceptions que j'ai eues, par exemple en 2022, c'était à Sierre-Zinal et puis au Championnat du Monde. Ces deux fois-là, je suis tombé malade. Une semaine avant la course, donc j'étais pas encore vraiment rétabli, je sentais que j'étais à la limite entre presque la fièvre et voilà, ne pas prendre le départ, mais voilà, c'est quand tu t'es tellement investi pour une course, tu te dis ça peut quand même passer, ça peut quand même passer, ça peut quand même le faire, mais voilà, souvent on te rappelle alors voilà, quand t'es pas à 100%, c'est dur de performer à ton meilleur niveau. Et puis, ouais, donc généralement, c'est un peu ces trois étapes-là. C'est d'abord la déception, et puis ensuite l'analyse. Et puis après, discussion, partager un peu ma déception avec des personnes qui m'entourent, que ce soit ma famille, des amis, ma préparatrice mentale et mon entraîneur pour tout ce qui est plus concret et orienté vers l'avenir.
Génial, ouais. Donc, qui est tombé, mais vite se relever et pour aller plus loin après. Génial.
Parce que là, après, moi, ces émotions négatives sont importantes aussi. Aussi importantes que les émotions positives. Les émotions négatives, justement, elles me permettent de ressentir encore plus d'émotions positives, ou des émotions encore plus intenses lorsque ça se passe bien. Parce que justement, tu as toujours dans un petit coin de ta tête le travail que tu as accompli depuis ta dernière défaite ou depuis ta dernière déception. Et donc, souvent, j'aime bien dire que je vis par ces émotions et pour ces émotions. Parce que voilà, ces émotions me font grandir et me permettent d'être un meilleur sportif et une meilleure personne.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je vois vraiment ce que tu veux dire et t'apprécies beaucoup mieux le positif quand tu as vécu du négatif. Et d'expérience personnelle, je trouve aussi que les expériences négatives permettent de me garder un peu plus discipliné, par exemple à l'entraînement, où je me dis, ah, t'as vécu ça avant. C'est aussi un petit peu, par exemple, je sais pas, parce que j'ai loupé une fois un rituel mental avant un match, et du coup, je suis là, ok. Tu l'as loupé, maintenant il faut que tu le fasses parce que sinon il y aura les mêmes émotions qui peuvent t'arriver. C'est vrai que ouais, il faut faire face à la réalité et puis que ça te permette d'avancer. C'est génial. Est-ce que tu as par exemple un sommet préféré ou quelle serait pour toi la journée d'entraînement idéale? Si tu pouvais avoir une baguette magique et puis te dire ok, j'ai envie de passer par là, ensuite faire ça, comment est-ce que tu la décrirais?
Mon camp de base en Valais, c'est à Vercorin. Je sais pas si tu connais cette petite station de ski un peu aux portes du Val d'Anivier. Et puis, il y a une réserve naturelle qui s'appelle le Vallon de Réchy, qui est très connue surtout l'été, parce que c'est une réserve naturelle et du coup, il y a quand même des belles balades, des chamois et petits lacs, des edelweiss, etc. Mais l'hiver, c'est un endroit qui est peu accessible, ou qui est moins accessible que l'été. Et donc, bon, généralement, mes journées, quand les conditions d'avalanche et tout ça, la météo le permet, c'est là-bas que je vais m'amuser à faire des petits couloirs, des petits sommets. Mais il y a un sommet où j'aime bien aller, c'est au sud de Vercorin, ça s'appelle l'Abrinta. C'est pas un sommet très haut, c'est pas un 4000 mètres, c'est un sommet à 2600 mètres. Mais j'aime bien, parce qu'à la fin, c'est un peu plus technique, il y a des chaînes et il faut un peu mettre les mains. Et du coup, j'aime bien aller là l'hiver, l'été. Et puis, généralement, quand les amis me demandent, Max, tu peux nous emmener faire un joli tour en montagne? C'est là que je les emmène parce qu'on n'est pas trop loin des pistes. On est à 3 sommets de dénivelé au-dessus du domaine skiable. Mais la vue depuis le sommet est juste incroyable. On est entouré de tous les 4000 des Alpes. On voit du Mont Blanc au Cervin. On voit toutes les montagnes les plus emblématiques des Alpes, le Weisshorn, tous les sommets qu'on voit d'en bas généralement. Mais là, on est presque un peu plus bas, mais la perspective fait qu'on se croit là aussi haut que ces magnifiques sommets.
Le petit Lausannois que je suis a pris des notes.
Voilà.
Tu voulais aussi parler des sponsors, je pense que ça peut être une bonne occasion de rebondir maintenant sur les sponsors. Par exemple, bah toi, tu es un sportif déjà accompli, mais peut-être pour d'autres personnes que je vais interviewer qui ont besoin aussi de soutien, ça peut être assez cool de parler de ça.
Ben, souvent, avant de dire, quand tu commences en tant que sportif, généralement les sponsors, ils font plus, comment dire, du mécénat qu'autre chose. Tu vois, ils te soutiennent, mais ils ne demandent pas forcément grand-chose en échange, ou ils savent que ce sera compliqué pour toi de leur offrir des prestations ou de la visibilité ou des ventes à la hauteur de ce qu'ils t'offrent. Mais après, voilà, c'est une sorte de pari qu'ils font sur toi en se disant, ben, allez, je crois en ce jeune homme, il a du potentiel, il est sympathique, il croit en lui, il donne les moyens de réussir et ça m'inspire et du coup, je vais soutenir cette personne-là. Et puis à partir d'un certain temps, ben, tu as fait tes preuves, les sponsors, ils se disent, allez, maintenant, j'ai envie de récolter un peu les fruits de mon travail et de mon soutien ces dernières années. Et du coup, il faut faire évoluer notre collaboration à quelque chose de plus égal à égal, je dirais. Et donc, c'est à partir d'un moment, quand tu commences à confirmer, ben, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu peux offrir à tes sponsors, autre que, je sais pas moi, qu'une mention sur Facebook ou qu'un logo sur ton t-shirt. Faut essayer d'avoir quelque chose de plus, je dirais pas mesurable, mais de plus valorisant et pour le sponsor. Et du coup, là, ce que j'ai récemment fait, c'est que j'ai engagé quelqu'un justement pour m'aider dans ma communication et dans mon contact avec les sponsors. Après, là, c'est clair que c'est quelqu'un que je paye, que ça a un certain coût. Mais voilà, c'est important aussi pour justement créer une relation durable et que les sponsors soient ravis de toujours collaborer avec toi. Toi, certains de mes sponsors me soutiennent depuis. Ouf! Je faisais des calculs depuis 2016 ou 2017.
Ah ouais.
Et donc voilà, c'est des sponsors qui sont là depuis toujours et ça me ferait un choc le jour où cette collaboration s'arrête. Et donc j'essaie de mettre de plus en plus de choses en place pour être, comment dire, reconnaissant envers ces personnes-là et ces entreprises-là qui me soutiennent. Et puis, là, si je pense un peu à mes sponsors qui me soutiennent depuis longtemps, ben, il y a l'entreprise à Genève qui fait du placement de patrimoine, qui s'appelle Forum Finance, qui me soutient depuis justement 2016-2017 et qui a toujours été là pour moi, même période de blessure, même voilà, quand il y avait la période Covid, etc., où je ne peux pas tellement faire de compétition, mais je m'entraînais toujours, j'avais toujours des frais. Et donc, et puis, notre sponsor, bien, tout ce qui est un peu équipement, il y a Skitrab, c'est une marque de ski de rando qui me soutient aussi depuis pas mal d'années, qui est basée en Italie et qui fait vraiment pour moi les meilleurs skis. Les meilleurs skis du marché. Et puis aussi ben, la station de Vercorin où je réside, que ce soit les remontées mécaniques, que ce soit une agence immobilière, que ce soit les restaurants, etc., qui me soutiennent depuis un peu long d'années et puis qui sont fiers de m'avoir. Et puis pas plus tard que lundi, je vais recevoir le mérite sportif de la commune de Chalais, dont fait partie Vercorin. Et donc
Félicitations.
c'est sympa aussi de voir que la commune me suit et ouais, c'est une belle preuve de reconnaissance que de m'offrir ce mérite sportif.
Super, super, c'est intéressant de voir aussi comment tu arrives à gérer et avoir une relation avec ces sponsors et ouais, j'imagine que ça fait partie intégrante du travail d'athlète et dans le fait que tu aies
Oui.
engagé quelqu'un aussi pour
C'est
ça.
ça. Tu vois, quand tu progresses ou quand tu professionnalise de plus en plus, ben, tu dis, allez, disons que j'ai fini mon master management, ben, tu vas te dire, allez, j'ai le temps de faire tout, de faire les newsletters, j'ai le temps de mettre à jour mon site, j'ai le temps de faire les publications sur Facebook, sur Instagram, le temps de faire mon sponsoring. Tu dis, j'ai plein de temps. Mais quand tu atteins un certain niveau dans ton sport, tu as vite beaucoup de choses qui te prennent plus de temps qu'avant. T'as des interviews beaucoup plus souvent, t'as des shootings photos pour des marques, t'as les déplacements pour les compétitions, t'as les camps d'entraînement, t'as les tests médicaux, les tests efforts, t'as vite les périodes de récupération qui sont aussi de plus en plus importantes parce que tu t'entraînes de plus en plus aussi. Donc au final, t'as pas beaucoup de temps que ça. Et puis quand t'as une journée où t'as rien à faire, où t'as pas d'entraînement, t'as juste pas envie de devoir faire. D'écrire un pavé, de faire tout ça. Et ces journées aussi qui sont importantes pour te mettre devant Netflix et te calmer ou là, juste aller au sauna, hammam et passer ta journée là-bas, quoi. Et donc, c'est important aussi de déléguer. C'est quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à très récemment, jusqu'à 2020. Donc, jusqu'à il y a 2 ans, je faisais vraiment tout moi-même. J'avais pas d'entraîneur, pas de nutritionniste, pas de préparatrice mentale, personne qui m'aidait pour ma communication. Et puis, au bout d'un moment, ben, j'étais presque en burn-out où ça n'allait plus. Et donc, j'ai dû me mettre un peu en question et revoir un peu ma philosophie freedom, tu vois, liberté absolue où je fais ce que je veux quand je veux. J'ai de compte à rendre à presque personne et à avoir une approche beaucoup plus structurée, beaucoup plus professionnelle. Et voilà, de faire davantage confiance aux gens et déléguer beaucoup plus. Même si voilà, ça me coûte un petit peu, mais au final, j'en suis gagnant.
Ouais, je pense que la charge mentale doit être bien, bien moins élevée. Et étant donné que les athlètes d'aujourd'hui, le mental est ce qui est super important, ben, c'est vrai que ça peut avoir un gros impact. Ouais. Voilà. C'est intéressant, je trouve. Moi, j'ai enlevé mes réseaux sociaux. Donc, au fait, j'ai plus Instagram, j'ai jamais eu vraiment Facebook, ni Snap, des trucs comme ça, j'ai pas. Et du coup, genre. Ouais.
Après, toi, je pense que c'est différent, tu vois. En tant qu'arbitre, t'as pas envie non plus que les athlètes viennent te retrouver sur les réseaux sociaux et viennent t'attaquer, tu vois.
C'est sûr. Jusqu'à
Sinon,
maintenant, ils ont
pareil.
été gentils,
Ouais.
mais c'est vrai que l'exposition peut être super positive pour avoir un contact avec les fans, pour partager ta passion. Et t'as peut-être, comme pour moi, t'as raison, une autre approche, ouais.
Avant, on parlait de mon contre antidopage. Je sais aussi que ceux qui font ça comme métier n'ont pas le droit, ou en tout cas pas sous leur vrai nom, ou même, je sais même pas si c'est sous un pseudo, ils ont le droit d'être présents sur les réseaux sociaux. Là, au cas où, toi, tu as un test positif, tu t'as retrouvé ces personnes-là, je sais pas, sur Facebook, toi, tu peux retrouver l'adresse, ou tu peux regarder un peu où ils sont souvent. Et donc, tu as à être vengé un peu, tu vois.
Ouais. Ah, ça doit être un travail pour moi. Alors, je fais arbitre et contrôleur antidopage, ça serait la totale. Il n'y aura pas grand monde qui va m'aimer.
Mais non, après, c'est des choses, des métiers qui sont hyper importants. Parce que voilà, sans les arbitres ou sans les juges ou sans le jury dans certains sports, ben, ça ferait vite, le chaos et le sport ressemblerait pas à grand-chose. Donc, c'est des métiers qui sont vraiment importants. Et puis, ben, les contrôles antidopage, ben, c'est clair que c'est une contrainte parfois assez importante pour les athlètes. Tous les jours, je veux dire, où on peut venir me tester. Donc, voilà, tu n'as pas le droit, tu dois faire attention, pas te tromper, pas oublier de mettre à jour, etc. Mais c'est important aussi de prouver qu'on est clean et qu'on n'a rien à se reprocher à ce niveau-là, et que nos performances sont honnêtes, elles sont vraies, elles sont ce qu'elles sont, quoi.
C'est ça, ça donne toute la puissance et toute la beauté du sport ensuite de savoir que c'est un sport clean et puis qu'il y a que les performances sont authentiques, ouais. Bah c'est ça pour les matchs de hockey, il y a les arbitres. Je pense que pour toi, pour tes sports, c'est aussi beaucoup d'organisation. Il doit y avoir des courses mythiques où il y a des gens qui vont investir du temps, je sais pas, peut-être pour montrer, est-ce qu'il y a des gens qui montrent les directions, comment se passe l'accueil après. Au départ et à l'arrivée, moi je m'y connais pas du tout, donc comment est-ce que tu décrirais un petit peu ton expérience du point de départ justement à l'arrivée? Est-ce qu'il y a des masseurs qui sont prêts dès que vous arrivez à la fin? Comment ça se passe de ce côté-là?
Ben, chaque course est un peu différente. Il y a des courses comme la patrouille des glaciers, tu l'as peut-être entendu parler. Ben, tu relies Zermatt à Verbier par les montagnes, qui est organisée par l'armée, où je crois que tu as 1500 militaires qui sont mobilisés pour la course, et il y a 4500 participants, donc environ un militaire pour une équipe, toutes ces équipes de trois. Et donc là, tu as des organisations qui ont des dispositifs comme ça énormes, avec les hélicos qui tournent. Les équipes militaires sont là déjà depuis des semaines dans la montagne pour préparer le terrain, sécuriser, faire la trace, etc. Et puis, tu as des organisations là où c'est vraiment des purs bénévoles qui sont passionnés, qui sont là, qui voilà, même si tu es dans un moment de souffrance ou parfois ça se passe pas bien, pas comme tu le souhaites, ben, c'est des gens qui sont toujours là pour avoir un mot réconfortant ou avoir toujours là pour t'encourager aussi et t'aider du mieux qu'ils peuvent. Et donc, après, voilà, il y a aussi les Coupes du Monde, c'est quand même assez différent. C'est des courses qui sont très, très cadrées. Il y a beaucoup de règlements, beaucoup de conditions à remplir, etc. Et donc, et c'est beaucoup plus professionnel aussi. Du coup, on a les équipes nationales qui sont là, il y a les staffs, il y a les kinés, il y a parfois les médecins, il y a les photographes, il y a les médias, il y a la télévision. Hein, donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour faire vivre le sport aux athlètes professionnels et que ces courses, souvent dans le passé, les athlètes étaient tellement professionnels, étaient plus professionnels que les compétitions ou que les fédérations ou que dans leur pratique, ils ont été un tel niveau d'exigence dans notre pratique quotidienne qu'on était presque déçus parfois des compétitions de voir, mais allez. C'était vraiment presque comme un manque de respect envers les athlètes de voir le manque d'organisation ou de professionnalisme qu'il y avait dans les fédérations, dans les organisations. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour les JO aussi. Chaque geste des fédérations ou de la fédération internationale sont scrutés et analysés. Et donc là, le sport va dans une direction assez professionnelle. Après, certains n'aiment pas trop la direction que le sport prend, la direction un peu olympique que le sport prend, parce que ça dénature parfois un peu le sport. Toi, nous, c'est les grands espaces, la montagne, cette liberté, ces passages techniques, c'est les risques aussi, parce que là, on est en montagne, il n'y a pas tout qui peut être contrôlé. Et puis là, la direction que le sport prend, c'est plus... danger minimal, parcours sur piste, petite boucle facile à filmer, à proximité des spectateurs et de la montée mécanique. Donc, il y a un peu ces deux mondes entre vraiment les puristes Et ceux qui, voilà, qui suivent la direction olympique. Et puis les athlètes, on est un peu partagé entre ces deux mondes, parce que c'est clair qu'à l'entraînement, on vit pour la montagne, on vit pour ces grands espaces, on vit pour ces sommets qu'on gravit. Et puis, bien d'un autre côté, si on veut être payé par les fédérations, si on veut être encadré, etc., il faut se préparer pour les compétitions qui sont officielles, qui sont les Coupes du Monde, qui sont les Championnats du Monde. Et donc, c'est pas toujours facile de suivre notre cœur et de suivre d'un côté et de suivre un peu la raison de l'autre et de se préparer pour les JO et les Coupes du Monde en particulier.
J'ai beaucoup aimé parce que ça relie le point que tu as mentionné avant sur les bénévoles et sur la cohésion que ça peut amener des courses comme ça, pardon. La symbolique, elle est aussi grande. C'est, tu relies deux points en passant par les montagnes, tu relies deux villages par exemple, et ouais, tu as vraiment ce côté fédérateur dans une course, et ça, je trouve ça chouette, ça vraiment impressionnant.
Ouais, puis ce qui est assez incroyable, c'est que tu vois, souvent il y a les compétitions auxquelles on participe, elles traversent plusieurs villages, plusieurs communes, et du coup, les communes un peu se mettent d'accord. Tu vois, souvent il y a un peu les communes voisines où c'est un peu, je sais pas, le club de foot voisin, le club de hockey voisin, tu es un peu le derby ou tu es un peu tout ça. Mais là, c'est des communes qui doivent se mettre ensemble pour organiser un événement et faire vivre un maximum d'émotions aux athlètes qui participent. Et donc, c'est parfois assez chouette de voir toutes ces personnes qui, généralement, ne s'entendent pas trop ou avec qui elles ne discutent pas trop, à se mettre ensemble pour organiser des moments incroyables.
Génial. Pour le mot de la fin, est-ce que tu pourrais me partager des modèles? Des personnalités publiques, des livres qui t'inspirent et qui te permettent d'accomplir tes rêves.
Bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Généralement, je commence par dire que ce sont t'as souvent au départ des courses en trail ou en ski de rando. Je dirais pas des personnes âgées, mais je dirais des athlètes de 70 ans et plus. Et puis moi, c'est mes modèles parce que moi, je me vois pas vivre ma vie sans les montagnes et puis voir que ces personnes qui ont fait des compétitions toute leur vie ou quasiment. À 70 ans, sont toujours là au départ des courses, à mettre un dossard, à souffrir comme jamais. C'est quelque chose que je trouve très inspirant et j'adore discuter avec ces personnes-là pour voir un peu d'où elles viennent, quel parcours elles ont eu et voilà qu'est-ce qui les motive encore à s'entraîner, si les blessures les handicapent pas trop, si comment ils vivent le fait de plus avoir le même niveau que quand ils étaient dans la fleur de l'âge. Et puis ensuite, on ne peut pas parler de trail ou de ski de rando sans parler de Kylian Jornet. Parce que là, c'est un athlète qui est extrêmement polyvalent. Il est bon sur des efforts de 30 minutes ou des efforts de plus de 24 heures. Et donc, avoir un tel niveau de polyvalence dans deux sports aussi en ski de rando et en trail, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez lui. Et aussi son niveau de professionnalisme. Il soigne vraiment chaque détail, il teste un maximum son matériel, il développe du matériel pour les courses auxquelles il participe ou les projets qu'il lance. Et puis voilà, c'est un peu ces modèles-là que je suis. J'aime beaucoup regarder aussi un peu ce que font les autres sports, à quel point ils peuvent être professionnels ou pas professionnels, ou à quel point. La passion est présente dans ces sports-là ou pas. J'ai pas forcément un sport comme ça en particulier qui me vient à l'esprit, mais c'est important aussi de pas rester uniquement dans son sport et concentré sur ce que font les autres dans son sport, mais aussi regarder ce qui se fait en dehors. Là, j'attends des nouvelles, mais j'aimerais bien pouvoir faire des camps d'entraînement avec, tu vois, en Belgique, mais les sports d'hiver, c'est pas très grand, et donc j'aimerais bien faire. Des camps d'entraînement avec les autres sportifs, des autres sports d'hiver belges, que ce soit des biathlètes, que ce soit des fondeurs, que ce soit des skieurs alpins, pour justement avoir des échanges avec eux et voir à quel point notre entraînement est différent ou à quel point des choses peuvent se faire en commun entre nous. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à l'avenir un peu plus. Mais, euh, Mais voilà, ce que j'adore le plus, c'est peu importe la passion d'une personne, c'est de voir que cette personne a trouvé sa passion et voilà, est passionnée par ce qu'elle fait et met tout en place pour la vivre à fond.
Génial,
Voilà.
c'est un très très beau mot de la fin. Je te remercie beaucoup
Merci à
pour
toi.
ton temps et puis pour cette discussion qui était vraiment chouette. Merci beaucoup, Maximilien.
Et merci beaucoup à toi, c'était vraiment sympa de me contacter et d'avoir cette discussion avec toi.